demander à Papa Céleste s'il peut prier pour nous. Et de ton frère Médard, tu pourras nous faire la lecture après la prière.
Oui, merci, prions. Dieu, notre Père, nous voici maintenant devant ta face. Nous voici à ce rendez-vous divin, prêts à t'écouter, Seigneur. Mais nous ne pouvons vraiment pas percevoir le message que tu nous donnes au travers de cette vision de Jean que nous sommes en train d'étudier. Si le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre, nous ne pouvons pas percevoir le message que tu as à nous donner. Voilà pourquoi nous avons réellement besoin de toi. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous révèle des choses cachées que nous ne pouvons pas connaître avec l'intelligence humaine. Utilise ton fils et oins-le, qualifie-le pour diriger cette rencontre, que nous puissions vraiment œuvrer dans le spirituel et le naturel pour que nous puissions capter réellement quel est le message qui est caché derrière ce message, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Tu continues à nous garder, tu nous rends disponibles. Nous pouvons te dire, nous voici, parle-nous du début jusqu'à la fin. Nous voulons tout simplement voir ta gloire éclater parmi nous. Merci de tout cœur. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Amen.
Amen. Amen. Merci, Papa Céline, pour la prière. Vous avez écouté la lecture du texte de ce soir dans Apocalypse chapitre 7. Nous lisons tous les chapitres. Le frère Médard va nous faire la lecture.
Merci, pasteur, pour la parole. Nous allons lire dans le second. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Aser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône des vieillards et des quatre êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen.
Amen. Merci, frère, mesdames, pour la lecture de ce texte. Un texte qui est très profond. Parfois, des choses qui pourront être difficiles pour nous de les saisir. Mais comme on va passer le demander au Seigneur dans la prière, notre Dieu, parce que nous sommes, est le seul qui peut nous expliquer le sens des Écritures et nous aider à comprendre, à saisir le message qu'il veut nous transmettre ce soir au travers de ce texte sacré. Hier, nous avons vu dans le chapitre 6 comment l'agneau procédait à l'ouverture des sceaux après avoir pris le livre des mains de celui qui est assis sur le trône. Et nous avons vu les six premiers sceaux avec tous les malheurs qui y étaient rattachés. Avant l'ouverture du septième sceau que nous verrons après, nous savons, nous nous rappelons hier dans le texte à partir du verset 15 du chapitre 6, on nous a montré que les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, mais aussi les esclaves, les hommes libres, ça veut dire les hommes de toute classe sociale, qui ne connaissaient pas Dieu, qui s'étaient rebellés contre Dieu, ils se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, au point de demander aux montagnes de tomber sur eux, parce qu'ils voulaient être cachés de la face de celui qui est assis sur le trône, et aussi être cachés devant la colère de l'agneau. Et eux-mêmes vont poser une question à laquelle le Seigneur va répondre dans le chapitre 7, parce qu'ils ont dit, le grand jour de la colère de l'agneau est arrivé, qui peut subsister devant la colère de l'agneau? Et le Seigneur nous ouvre ici une parenthèse, où nous allons voir qui peuvent subsister à la colère de l'agneau, tel que les gens du monde se posaient des questions. Et c'est là où nous trouvons les rachetés de l'Éternel qui sont ici scellés. Sur eux, le Seigneur appose son sceau, son cachet, comme étant un signe d'appartenance à Dieu. Et c'est eux qui vont évidemment être rescapés. Nous verrons un peu plus de manière détaillée dans le partage ce qui en résulte. Et puis ensuite, nous verrons qu'il y a en plus de quelques-uns des prémices d'Israël qui sont scellés, mais aussi une grande foule qui va aussi se mettre à chanter avec les anges et les quatre êtres vivants pour glorifier l'agneau de tout ce qu'il a accompli pour eux. Le partage nous dira aussi évidemment d'où est-ce qu'ils viennent et qui sont-ils, comment est-ce que nous pouvons nous identifier à eux. Et nous verrons aussi, en dernier, le bonheur éternel qui accompagne ceux et celles qui sont mis à part pour Dieu, qui se sont consacrés à lui et qui ont triomphé du mal, du monde, du péché par la grâce de Dieu et qui ont servi le Seigneur malgré tribulation. Voilà les grandes lignes de ce partage ce soir. Nous pouvons, frères et sœurs, nous rappeler ce que nous disons habituellement, ce n'est pas toujours redondant, mais nous avons 2 minutes pour prendre la parole et je demanderai, j'encouragerai les frères et les sœurs sur le cœur de qui le Seigneur a placé une parole, une vérité, quelque chose qui peut édifier les autres. Ne restez pas seul dans votre coin avec ce que le Seigneur vous a mis à cœur. Si vous pouvez le partager avec nous, ça nous édifiera, ça nous aidera. Tous, nous voulons méditer la parole, nous voulons réfléchir longuement. Ça peut être un bout de texte, ça peut être une phrase, ça peut être un mot, quelque chose qui nous interpelle, quelque chose qui nous réjouit, quelque chose qui nous condamne même aussi. Nous pouvons le partager et le peuple de Dieu pourra toujours en tirer bénéfice et Dieu sera glorifié. Voilà pour ce soir, frères et sœurs. En termes d'introduction pour le partage de ce message ce soir. Voilà, la table est mise et nous pouvons partager la parole du Seigneur. Je vais commencer avec la première partie ici. Je pense que je vais peut-être voir l'idée globale qui est jusqu'au verset 3, de 1 à 3. Mais avant, je vais d'abord laisser la parole au pasteur José.
Oui, merci pasteur. Frères et sœurs, je suis au début. Nous avons affaire ici aux anges qui viennent épauler le Seigneur, puisque jusque-là, il était question de... C'est vrai, les anges étaient là, mais c'était plus les 24 vieillards et les quatre êtres vivants. Mais au chapitre 7, Jean a vu 4 anges. 4 anges qui étaient debout aux 4 coins de la terre. La terre est pareille ici, carrée, la forme de la figure qui a 4 coins, mais en fait, cela veut dire tout simplement tout autour, et ils étaient là pour un travail. Il retenait les 4 vents afin qu'aucun d'eux ne souffle sur la terre, ni sur la mer, ni sur les arbres. Ils avaient un travail d'empêcher le vent de souffler sur ces endroits qui sont cités, c'est-à-dire la terre, la mer, et sur les arbres. Donc, les anges, ils ont toujours été au service de Dieu. Et même, Dieu les envoie parmi les humains. Ils viennent aussi, toujours, dans le cadre de leur mission. Alors, ils sont là pour servir le Seigneur, et ils obéissent. Les anges qui ont désobéi sont déjà sortis. Ils sont tombés, ils sont avec Satan. Mais les anges qui sont restés, ce sont des anges obéissants, soumis à la parole de Dieu. Et sur l'ordre du Seigneur et d'après l'économie du salut, les anges sont inférieurs aux hommes, aux rachetés. Les anges sont inférieurs aux rachetés, même si ils ont toujours été avec le Seigneur, même si ils bénéficient d'une certaine puissance plus que nous autres. Mais sur le plan du salut, Christ n'est pas mort pour eux, mais il est mort pour les humains que nous sommes, et nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, plus que les anges. Merci.
Pour ce commentaire, pasteur, je voudrais continuer avec l'idée du sceau au verset 3. Le Seigneur dépêche notre ange qui dit aux quatre premiers dont on vient d'entendre parler de ne pas faire du mal ni à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que tous les serviteurs de Dieu aient été marqués sur leur front du sceau de Dieu. Autrefois, même on va le voir encore aujourd'hui aussi, le sceau impliqué pour les familles aisées un moyen de déterminer, de dire que tel ou tel ou même aussi tel document ou telle propriété était leur appartenance. Donc le sceau de Dieu est un symbole d'appartenance à la famille de Dieu. Le Nouveau Testament aborde longuement aussi dans cette direction-là pour dire aussi que Dieu nous a scellés du Saint-Esprit. Dieu a mis le cachet de l'Esprit sur le peuple qui lui appartient, ceux et celles qui connaissent Dieu. Le Seigneur les a différenciés de tous les autres en mettant sur eux un sceau d'appartenance, un sceau qui implique qu'ils appartiennent à Dieu. Je voudrais, pour ce soir, frères et sœurs, personnellement, je retiens cette grande vérité d'appartenance à la famille de Dieu. Lorsque les troubles viennent, lorsque les calamités viennent, lorsque les moments de difficulté viennent, les tribulations arrivent, Dieu ne peut pas abandonner son peuple, Dieu ne peut pas délaisser son peuple. Il est maintenant question que je lui fasse confiance, sachant que je suis privilégié. Le pasteur vient même de nous faire voir que Christ est mort pour nous, nous donnant le rang d'enfant de Dieu, d'héritier dans la maison de Dieu, ce qui n'est pas le cas des anges. Et nous pouvons nous réjouir de cette perspective. Lorsque je la garde dans mon cœur, je sais que quelle que soit la tribulation, Dieu me gardera fidèle à lui. Je vais donner la parole au frère Gaston.
Merci beaucoup, pasteur José du Canada, pour la parole. Je reviens au verset 1, comme le pasteur José des États-Unis parler de l'apparition des anges ici. Je suis interpellé quand je me réfère à Apocalypse 4, 8, où on parle des quatre êtres vivants. Ils avaient chacun six ailes. Jean ne les a pas appelés des anges. Il a appelé, ce sont des quatre êtres vivants. Ce qui m'interpelle, même lorsqu'on parle de 24 vieillards, cela me convainc et vient me chercher pour dire que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses, de toutes créatures. Il m'a créé homme, il y a des anges, il y a des êtres vivants, il donne la forme qu'il veut et tous, chaque catégorie a un rôle spécifique à remplir. Et si je suis sur cette terre, je dois marcher dans la crainte de l'Éternel et être là pour adorer, exalter et magnifier l'Éternel Dieu des armées. Parce que quand est-ce que les 24 veillards sont devenus vieux, ils sont là, les anges apparaissent avec une mission spécifique d'obéir aux ordres que l'Éternel Dieu donne pour exécuter la mission. Amen.
Merci Père. Rappelons-nous toujours, frères et sœurs, que la question de tous ceux qui allaient périr à l'ouverture du sixième sceau, leur question était « Qui peut subsister devant la colère de l'agneau ? Qui peut subsister devant la face de celui qui est assis sur le trône ?» Nous avons déjà un élément de réponse ici. Tous ceux que Dieu a marqués de son sceau, qui sont-ils ? Ce sont ceux qui servent le Seigneur. Il est dit, l'ange marque du sceau de Dieu le front de tous les serviteurs de Dieu. Alors, la question est, je dis, du fond de moi-même, suis-je serviteur de Dieu ? Suis-je servante de Dieu ? En quoi est-ce que je sers Dieu ? Parce qu'on voit bien que ceux qui servent vraiment le Seigneur, ceux-là, ils sont privilégiés par ce sceau et Dieu les met à part. Dieu les différencie de tous les autres et eux, ils ne participeront pas. Ils ne seront pas l'objet ou ils ne subiront pas les calamités qui viendront et qui attendent le monde entier. Merci frère, je laisse la parole à Papa Célé.
Oui, merci Papa José pour la parole. Quand je regarde du verset 4 jusqu'au verset 8, je vois un certain nombre de gens sur lesquels le sceau a été marqué. Alors, du 4 à 8, ce sont en fait les tribus des fils d'Israël. Alors, on commence à énumérer tribu par tribu. Dans chaque tribu, on marque 12 000. Ensuite, au lieu de commencer avec la tribu de Ruben, qui est l'aîné de tous les fils d'Israël, on commence avec la tribu de Juda, et c'est la suprématie que cette tribu a pris sur l'aîné. Nous connaissons ce que l'aîné avait fait à son père Jacob. Et c'est par cette tribu que le salut est entré dans le monde. Et aussi une absence de quelques tribus, je ne vois pas Éphraïm, peut-être qu'il est inclus dans Joseph, mais je ne vois pas la tribu de Dan. Mm-hmm. Donc pour dire, nous ne pouvons pas nous arrêter à ces chiffres, c'est la leçon que nous pouvons tirer, c'est que ce n'est pas tout le monde en Israël qui a refusé, qui n'est pas sauvé. Il y a un certain nombre que nous verrons auprès du Seigneur sauvé. Nous verrons des multitudes, même parmi les enfants d'Israël. Et que quand je regarde ce que Paul disait aux Éphésiens, Éphésiens 4, verset 30, il disait, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc les sceaux, ce n'est pas seulement réservé ni aux multitudes qui vont venir, ni aux enfants d'Israël. Au peuple de Dieu, aujourd'hui aussi, il y a un sceau qui est marqué. Voilà pourquoi nous devons regarder avec les yeux spirituels pour voir, nous avons un sceau, c'est un grand privilège qui est donné à tous ceux qui sont nés de nouveau. Amen.
Amen. Merci, Papa Célé. Avant de commenter là-dessus encore, je vais laisser la place au pasteur José.
Ok, un mot sur les 12 tribus d'Israël. Très souvent, les témoins de Jéhovah circulent avec ce passage pour troubler les enfants de Dieu, les chrétiens que nous sommes. Et bien aimé, ne vous dérangez pas, même quand ils viennent, ils entrent, ils racontent. Si tu veux, tu peux te taire, ils vont partir. Parce que ce qu'ils disent ici, selon leur façon de voir, il n'y a que le 12, les 144 000. Et ils disent que tout le monde n'est pas dans les 144. Ils oublient que les 144 000 racontés ici, ce sont les tribus, ce sont les ressortissants des tribus, les 12 tribus d'Israël. Mais pour eux, les 144 sont pris dans le monde, mais il faut faire partie de ces 144. Et ils dérangent, ils prennent, dit-on, là-dessus, mais bien-aimés, je vous dis, s'ils viennent, ne vous dérangez pas, nous restons attachés à la parole de Dieu qui nous dit que ce nombre-là, les 144 000, c'est pour les enfants d'Israël. Tandis que nous autres, nous venons à partir du verset 9. Merci.
Merci. Pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous, nous sommes dans Apocalypse chapitre 7, que nous méditons, donc tous les chapitres au complet, et à la question de savoir qui peut subsister devant la colère de l'agneau, tel que ça a été posé hier dans le chapitre 6, verset 17, nous avons des éléments de réponse. Nous sommes en train de voir que Dieu préserve son peuple, Dieu a préservé son peuple, Dieu préservera ceux qui lui appartiennent, ceux qui le servent, il les gardera, même au travers de la grande tribulation. Ensuite, la question numéro 1 nous aide aussi à méditer parce qu'elle veut que nous sachions, que nous disions comment ce texte ici peut-il voir Dieu, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et au travers de tout ce que nous lisons, qu'est-ce que Dieu nous enseigne, qu'est-ce que Dieu nous apprend, quelle vérité est-ce que le Seigneur nous donne en ce moment. Frère Gaston, vous avez encore la parole.
Merci, Pasteur José. Je prends les versets 10 et les versets 3. Je suis interpellé, et surtout cet après-midi, je voyais l'ordre est donné, ne faites pas mal, ne faites pas de mal à la terre, aux arbres, ainsi de suite. Et le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Je voyais un peu Jésus-Christ, je dis, mais qui peut me protéger à ce moment? Parce qu'on dit, ne faites pas du mal et les anges obéissent. Alors je voyais le nom de Jésus-Christ. Quand nous chantons, quel beau nom, le nom puissant. Donc, je peux crier le nom de Gaston, le nom de José, le nom de Paul, ainsi de suite. S'il est loin, il ne peut pas m'apporter le salut. Mais le nom de Jésus-Christ, quand je l'invoque, il y a des effets. Même si je ne vois pas physiquement, mais en citant le nom de Jésus-Christ, dans le monde invisible, il y a des choses et des choses qui se passent. Et quand nous passons devant une séance de délivrance, j'étais interpellé, j'ai dit, mais avec le nom de Jésus-Christ, vous voyez une personne normale, vous n'invoquez que le nom de Jésus-Christ, à un moment donné, la personne tombe, les démons se manifestent, et toujours au nom de ce Jésus-Christ, les démons partent. Il y a la vie. Alors, j'ai un peu peur, une crainte de voir que quand je cite le nom de Jésus-Christ, parfois, je le cite à la légère. Si je réalise vraiment l'impact, la puissance, le pouvoir contenu dans ces noms, j'aurai crainte et je veux honorer ce nom de Jésus-Christ. Et chaque fois que ce nom est cité, je dois vraiment réaliser qui est ce Jésus-Christ. Ici, c'est grâce à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau que j'ai la vie. Et lorsque j'écris le nom de Jésus-Christ, les gens qui font parfois des cauchemars la nuit ou bien des combats, quand ils invoquent seulement le nom de Jésus-Christ, il y a des multitudes, même des démons qui tombent, même des personnes qui les menaçaient tombent à cause du nom de Jésus-Christ. C'est un nom puissant et c'est ce nom qui nous maintient, qui nous soutient, qui nous protège contre toutes sortes de tribulations. Amen.
Merci frère d'insister sur la puissance, sur la beauté, sur la réalité du nom de Jésus-Christ, le nom par lequel nous sommes sauvés. Et donc il est écrit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est vraiment le nom pas comme les autres, le nom mis à part, un nom par lequel le Seigneur nous a été apporté. Paul, l'apôtre Pierre, à l'aube de l'Église naissante, disait « Il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés. » Et c'est vrai qu'il parlait du nom de Jésus-Christ. Merci frère. Pasteur Richard, vous avez la parole.
Merci beaucoup papa José pour la pasteur José du Canada pour la parole la proclamation de tout le verset à du moins du verset 9 jusqu'au verset 11 après que la foule immense qui rassemble toutes les tribus, le peuple, les langues. Et quand ils ont proclamé cette phrase, le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et l'agneau, cette parole m'a donné une réflexion. Pourquoi cette parole, du moins après cela, il y a une réaction, la réaction alors de tous les anges qui se tenaient debout, les vieillards et les quatre êtres vivants. Ils prosternèrent face contre la terre et ils adorèrent notre Dieu. Il doit y avoir quelque chose de spécial dans cette phrase, dans cette déclaration que nous allons préparer. J'ai essayé un peu de traîner là-dessus. Je crois que une étude approfondie peut nous aider à comprendre cette vérité-là, pourquoi la cohorte céleste doit fléchir leurs genoux juste après la déclaration. Je sais que quand il y a une vérité qui nous a touchés, on a toujours dit « Amen ». Gloire à Dieu. Il y a une réaction. Mais du moins, j'ai continué à faire des recherches sur cette déclaration faite par la foule immense qui poussa les anges, les vieillards, les quatre êtres vivants à se prosterner contre la terre pour glorifier notre Dieu. Merci.
Merci, merci encore. Voilà, frères et sœurs, à part, pour moi, du verset 4 jusqu'au verset 8, lorsqu'il est question des tribus d'Israël, le nombre annoncé veut-il signifier quelque chose? Veut-il dire quelque chose? Et toujours est-il que, personnellement, je vois les prémices pour Israël, et lorsque nous parlons des prémices, par exemple, sur un arbre, c'est en termes de fruits, c'est des fruits qui viennent à maturité avant le temps. Cela ne veut pas dire qu'il n'y en aurait pas d'autres. Les prémices, c'est juste le commencement de quelque chose. Et c'est ce qui nous est présenté ici. Le Seigneur sait, comme dit Paul, qu'il y a un petit reste que Dieu sauve d'Israël. Et c'est ceux-là, évidemment, qui reconnaîtront le Messie, le Christ, et qui reviendront vers Dieu avec un cœur sincèrement repentant. Le verset 9 nous parle d'une de cette grande multitude qui ne peut être comptée. Je remarque ici que dans la vision de Jean, lorsqu'il regarde ces personnes, en fait, nous sommes ici devant le trône de l'agneau, comme pour dire que nous sommes vraiment à la fin. Et la vie sur terre, comment elle est déjà finie, les jugements ont-ils déjà eu lieu? Mais je vois que dans la vision de Jean, il reconnaît que dans cette multitude, ils n'ont pas tous la même apparence parce qu'il peut reconnaître qu'ils viennent de nations différentes. Il peut reconnaître qu'ils viennent de tribus différentes. Il peut reconnaître qu'ils viennent de peuples différents et qu'ils ont des langues différentes. Et ça me montre, ça me dit, j'ai l'impression que de l'autre côté, nous aurons la conscience de notre appartenance. Cette appartenance dans laquelle le Seigneur nous a fait naître et qui est aussi importante parce que Dieu a décidé que nous naissions là où nous sommes nés, que nous soyons de tel ou tel autre pays, de tel ou tel autre village, tel ou tel autre coin. Et dans ce que j'en vois, ce sont tous des personnes égales devant le Seigneur. Ils ont tout simplement la grâce d'avoir été sauvés. Ma réflexion, pourquoi est-ce que je pense que je suis plus important que les autres parce que je viens de telle tribu ou de telle ethnie ou de telle nation? Pourrais-je utiliser ce que je suis au lieu peut-être de m'enorgueillir? Pourrais-je l'utiliser pour glorifier Dieu? Parce que c'est comme ça que je peux servir Dieu. Avec ce que je suis, ma culture, ma langue, mon appartenance ethnique, pourrais-je utiliser tout cela et le mettre au service de Dieu plutôt que chercher à brimer ou à détruire les autres? Papa Joseph, vous avez la parole.
Merci beaucoup, pasteur. Je rentre encore au verset 10 sur la déclaration de ceux qui sont au ciel, les anges et tout. En parlant du salut, ils ont dit, le salut vient de notre Dieu, qui siège sur le trône et de l'agneau. Le salut vient de notre Dieu et de l'agneau. Quand nous prenons Jean chapitre 3, verset 16, nous avons « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque a le salut, ce quiconque, c'est celui qui ou celle qui croit en Jésus. Et là, nous voyons l'auteur de ce salut. Il y a d'abord le nom de Dieu, le Père, qui est cité, car Dieu a tant aimé le monde. Parce que si Dieu n'avait pas aimé le monde, Christ n'est pas venu. Si Christ n'est pas, le salut nous serait impossible. Donc, on ne peut pas séparer le salut de Dieu le Père et de Dieu le Fils. C'est pour cela Ils sont cités ici, verset 10. Le salut vient de Dieu qui siège sur le trône et l'agneau. L'agneau est mort. Dieu l'a envoyé pour mourir. C'est à cause de son amour que son fils est venu pour mourir. Donc, nous avons cette idée. Ne séparons pas les deux dans notre salut. Ils sont là. Même quand nous disons Dieu a créé, a sauvé, mais bon, la parole nous dit que même dans la création, le Fils a été aussi là. Dans Jean chapitre 1, nous savons ce qui est dit de la parole. Le Fils est aussi là dans la création. Il a assisté. De même, le Père a été aussi là-bas dans la rédemption, c'est-à-dire dans la mort, le rachat des pauvres pécheurs que nous sommes. Merci, Dieu soit loué.
Merci, pasteur. Nous pouvons aussi regarder la suite du texte, notamment tout à l'heure, ce que la multitude disait a créé a conduit à une réaction de la part des anges des quatre vivants et des 24 vieillards, comme le pasteur Richard nous l'a dit tout à l'heure. Ils se sont prosternés, ils ont adoré Dieu. Et je voudrais m'arrêter au verset 12 pour regarder le contenu de ce qu'ils disaient. En se prosternant, ils ont dit des choses. Ce n'est pas seulement leur face qui était notre terre, mais leur bouche aussi proclamait, disait des choses. Et je suis intéressé à connaître quel est le vrai sens de tous les différents mots, les expressions qui sont utilisées ici et qui sont déclarées comme étant des choses qui appartiennent à Dieu au siècle des siècles. On parle de la louange. C'est quoi la louange? La gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, toutes ces choses qui, dans la majorité des cas, sont recherchées par les humains, par les royaumes, par les peuples, par tous ceux qui veulent être au-dessus des autres. Et en réalité, ces choses reviennent à Dieu. Mais quel est le sens que chacun des mots exprime pour moi, dans mon cœur? Pourrais-je aussi joindre ma voix à celle des anges, des quatre êtres vivants et des 24 vieillards pour dire nommément chacun de mots, chacun de concepts ici, chacune des expressions pour les rendre acquis de droit à notre Dieu? Papa Gaston, vous avez la parole.
Merci, Pasteur José, pour la parole. Je suis au verset 14b, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Je vois les rôles que joue l'agneau et je ne peux pas blanchir mes habits par un autre moyen si ce n'est que par le sang de l'agneau. Et ce passage me permet de mieux comprendre le passage quand Jean-Baptiste a présenté Jésus-Christ dans Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Il n'était même pas encore mis à mort, Mais Jean-Baptiste déclare qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc rien en moi de mal ne peut être ôté sans le sang de l'agneau. Je ne peux rien faire si je ne me lave pas dans le sang de l'agneau. Et je dois vivre en laissant la place à l'agneau de faire son travail à moi. Et dans Jean 3, 30, Jean-Baptiste dit, il faut que je croie, il faut qu'il croisse et que je diminue. Que je laisse Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, faire son travail à moi, me transformer pour que je sois que je sois là que pour la gloire de l'Éternel, pour acclamer et adorer mon Dieu. Parce que rien, je ne peux rien faire et je ne peux pas m'approcher de Dieu si je ne suis pas lavé dans le sang de l'agneau. Et cela me réjouit de savoir que cet agneau, il est venu me chercher. Ce n'est pas moi qui suis parti le chercher, il est venu me chercher. Et c'est lui qui a tout pouvoir et qui donne le visa pour être auprès de l'Éternel des armées. Amen.
Y a-t-il une tache sur ma robe? Est-ce que j'ai sali la robe reçue du Seigneur? La seule blanchisserie est celle de Christ Jésus. Et le seul foulon qu'il y a, c'est le sang de l'agneau pour pouvoir ôter toute souillure et toute impureté et tout péché. Merci, frère. Papa, tu m'as la parole.
Oui, je suis au verset 11 et 12 pour remarquer l'adoration et les anges et les anciens et les quatre êtres vivants donnent à Dieu. Comment je trouve que si nous n'adorons pas Dieu, on prend certaines attitudes dans l'église pendant qu'on dit prions, c'est parce que nous ne voyons pas Dieu. Mais si vraiment le Seigneur est en nous et dans sa présence, on est conscient qu'on est dans sa présence, les anges ici, les quatre êtres vivants, les anciens, c'est-à-dire les vieillards là, qui se tiennent devant le trône de Dieu, ils ne peuvent pas résister au sentiment, à l'invitation, à l'obligation de tomber la face contre la terre devant le trône et adorer Dieu. Pour qu'ils arrivent à dire la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, c'est à notre Dieu au siècle des siècles. Ils le font, c'est-à-dire dans un étourdissement de gloire de Dieu qu'il voit. Alors je me dis, quand je prie, est-ce que je vois la grandeur de Dieu? Parce que si vraiment je vois la grandeur de Dieu, je serai amené à tomber devant ma face, à m'agenouiller devant le trône, à adorer Dieu. Et adorer Dieu, c'est dire ces choses ici, ce qu'il est. Reconnaître que la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force lui appartiennent, le reconnaître que c'est au siècle des siècles et le proclamer. Voilà donc une vraie adoration, là où on voit la grandeur de Dieu, on se prosterne et on déclare ce qu'il est. Merci.
Amen.
Merci, Papa Thomas. Je vais donner la parole au pasteur Richard et après, c'est le pasteur Célé qui clôturera avec la dernière intervention.
Merci beaucoup, papa, pasteur José, encore pour la parole. Papa Thomas a tout épuisé, juste souligner la dernière partie de la louange. Il termine la louange en disant « pour l'éternité ». Donc, notre Dieu recevra cette louange, cette adoration pour l'éternité. Et cela m'étonne qu'aujourd'hui, dans nos églises, la louange devienne ennuyante pour d'autres personnes. Alors, ils oublient que c'est pour l'éternité que nous serons en train de louer et adorer notre Dieu. Merci.
Merci. Papa Célé, vous avez la dernière parole.
Merci beaucoup, Papa José. Le verset 15, le verset 15 nous montre voilà pourquoi ils ont leur place devant les trônes des dieux. Ça, il s'agit de multitudes. Il l'adore jour et nuit dans son temple. Ensuite, il dit, celui qui est assis sur le trône habite jamais avec eux, à jamais plutôt, à jamais avec eux, et il les protège de tout mal. Quelle grâce de savoir que nous devons rendre grâce au Seigneur, être à son service jour et nuit. Et cela, nous voyons combien ils n'auront plus faim, cette multitude. Quand on dit qu'ils n'auront plus faim, c'est peut-être pas nécessairement la faim physique. C'est pour dire qu'il prend soin de tous ceux qui lui appartiennent, tous ceux qui les concernent, les concernent, et il les conduit jusqu'aux sources des eaux de la vie. Donc, quel privilège de bénéficier de la source de la vie encore sur cette terre. Quand on est sauvé, on a le privilège que le monde qui nous entoure, le monde physique, ne sait pas voir, mais nous, en tant que fils et filles de Dieu, nous devons savoir que nous sommes les privilégiés ou les hommes et les femmes les plus heureux sur la terre, à cause de la grâce qui est sur nous, de la protection, de la façon dont Dieu gère et prend soin de tout ce qui nous concerne. Amen.
Amen. Merci, Papa Célé, de revenir encore sur cela, sur cette idée. Et évidemment, c'est une idée qui culmine évidemment vers la fin du texte, parce qu'on montre le bonheur éternel qui attend ceux et celles qui ils ont choisi de plaire à Dieu, de suivre le Seigneur, de vivre pour Dieu, de le servir jour et nuit. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ils seront plus frappés par la chaleur du soleil. L'agneau de Dieu sera au milieu d'eux, il les paîtra, il les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux, comme pour dire, le Seigneur n'est pas ignorant de la douleur par laquelle tu es en train de passer. Dieu voit, Dieu sait et Dieu te soutient. Il y a un temps qu'il a choisi pour mettre fin à tout cela et ce qui t'attend, si tu persévères, ce ne sera que le bonheur éternel. Frères et sœurs, un texte beaucoup plus approfondi encore, qui a des choses dont nous avons besoin de comprendre davantage. Nous saisissons, nous comprenons que le Seigneur a choisi de préserver ceux qui lui appartiennent, ses enfants, en les différenciant des autres humains sur la terre par un signe particulier. Un sceau placé sur leur front les identifie comme étant des membres de la famille de Dieu. Il est possible, en ce moment, vous et moi, nous ne voyons pas ces sceaux, mais le monde invisible le voit. Dans le Nouveau Testament, Paul a aussi abondé dans le même sens, et nous en avons entendu le partage par le pasteur Célé, que le Seigneur nous a scellés de son sceau. Il a mis, il a posé le sceau de l'Esprit sur ceux qui lui appartiennent. Et le Saint-Esprit nous a été donné comme étant le gage de notre héritage. Et nous avons vu aussi que en Israël, la tribu des Dan notamment n'est pas reprise dans la liste. Il y a plusieurs explications. Je ne sais pas laquelle peut être la meilleure. Est-il que dans quelques textes de l'Ancien Testament, on nous montre que la tribu de Dan À un moment donné, il avait totalement sombré dans l'idolâtrie si profonde, effectivement, que c'est un peu comme quand les autres tribus n'ont pas pu la reconnaître encore comme étant une de leurs. Je ne sais pas, frères et sœurs, si notre vie en ce moment, pendant que nous disons appartenir au Seigneur, menons-nous une vie d'idolâtrie, parce que le Seigneur veut bien nous bénir, il veut bien être avec nous, mais si nous nous adonnons volontairement à des choses qui n'honorent pas Dieu, si nous voulons détrôner Dieu de son trône pour y mettre quelqu'un d'autre, ça, ce sont des choses qui ne marchent pas avec l'élection à laquelle le Seigneur nous a appelés. Nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement, comme disent les Écritures. Frères et sœurs, reconnaissons que Dieu nous garde, Dieu nous protège, et que nous sommes l'objet de son amour. Persévérons, continuons, ayant cette certitude que le Seigneur a placé son sceau sur ceux qui le servent, qui l'aiment, qui lui obéissent. Voilà pour ce soir. Demain, nous allons méditer tous les chapitres 8 de Apocalypse. Nous aurons les questions 1 et 6 pour nous aider dans notre méditation. Papa Céleste, que nous avons des annonces et je demanderai à Papa Thomas de se préparer pour bénir le peuple de Dieu.
Saluer les frères et sœurs de Missouri, Alberta, Québec et Maryland qui sont avec nous à la radio. Merci.
Merci beaucoup. Papa Thomas.
Oui, frères et sœurs, nous allons prier. Je propose que nous puissions prendre une position de prosternation ce soir, de prier pendant que je prie. Si on peut trouver le moyen de se prosterner, de s'agenouiller pendant que nous prions pour adorer le Seigneur cette nuit. Prions le Seigneur. Tendre Père, merci pour cette école théologique finalement que tu as mise en place pour que nous puissions apprendre des paroles que nous ne pouvons pas connaître autrement. Merci de nous rappeler que l'agneau de Dieu a fait couler le sang qui fait laver nos robes, nos cœurs sont des robes. Nous t'adorons, nous nous prosternons devant toi, Papa. Merci que nous, en Jésus-Christ, nous avons Christ et nous nous sommes écrits dans le livre de vie. Heureusement qu'il y a un sceau, il y a un cachet, c'est scellé et nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Selon ta parole en Éphésiens 1:13, nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Nous avons cette marque et c'est fini. On ne peut pas perdre ce salut. Merci Père. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Il y a plus que ces 144 000 qui est un chiffre fait figuratif de 12 fois 12 fois 1000 qui signifie les myriades. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cette vision que tu as donnée à Jean-Baptiste qui nous montre comment les choses vont se passer. Et merci pour les explications de cette nuit. Nous t'adorons, tendre Père. Nous t'adorons, nous te célébrons. Et nous disons, nous tous cette nuit, nous reconnaissons, Seigneur, que tu es saint, 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 éternel et toute la terre est remplie de ta gloire. Nous reconnaissons, tendre Père, nous disons que ta louange, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force sont à toi, Dieu, au siècle des siècles, nous t'adorons. Nous te célébrons, éternel Dieu des armées. L'agneau est au milieu de nous, Jésus-Christ qui est cet agneau. En lui, nous avons les sources de vie et à notre Dieu sont toutes les dominations et le Seigneur va effacer nos larmes. Et le Seigneur va complètement, Seigneur Dieu, essuyer nos larmes en ce jour-là. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Bénis le professeur qui nous a conduits, Seigneur. Bénis sa famille, sa santé, sa foi, l'Église, son travail. Bénis le fumeur, bénis le pasteur Célestin qui est le berger du groupe. Bénis son épouse, bénis les enfants, bénis les membres du bureau. Bénis les frères et les sœurs fidèles. Bénis notre prière de demain à 20h, Seigneur, que beaucoup de gens viennent pour te célébrer, t'adorer, te louer. Oh Dieu, nous te bénissons. Merci Seigneur Dieu des armées pour l'image du ciel que tu nous donnes. Nous voulons souvent nous joindre à ces anges, aux quatre êtres vivants, aux vieillards, aux anges, aux archanges, pour t'adorer, te célébrer, te reconnaître que seul toi es Dieu. Donne les moyens aux funestes de fonctionner, Seigneur, proprement. Bénis les membres, les frères et les sœurs, Seigneur. Épargne-nous dans ce monde ici, il y a déjà des tribulations, il y a déjà des persécutions, mais fais-nous donner la victoire et garde notre foi, Seigneur, jusqu'au dernier jour. Nous voulons entendre de toi que nous aurons été des serviteurs fidèles. Bénis-nous, Seigneur, soutiens-nous, que nous appliquions cette parole, que tu bénisses ceux qui sont à la radio, ceux qui nous suivront ensuite à la rediffusion et ceux qui étaient au plateau. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Voilà, bonne soirée tout le monde et à demain.
À demain.